à votre santé. Eh bien, voici la 122e émission de l'Association citoyenne pour un centre de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices et les auditeurs de RVM. Hélène Mazur au micro et il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Nous invitons le docteur...
Loïc Penn.
Voilà,
de l'hôpital de Creil et de Beauvais. Je travaille sur les deux.
Merci.
Plutôt spécialiste dans les urgences, semble-t-il.
Ah oui, bah voilà, urgentiste.
Voilà, Daniel Cléo, vice-président de l'association, comme toutes les semaines, je suis présent.
Christian Max, de retour, provisoirement.
T'as raison.
Eh bien, écoutez, nous avons beaucoup de questions à poser au docteur Le Pen. Vous vous souvenez, chers auditrices, auditeurs, que nous avons évoqué la fermeture des urgences de Senlis, puis qui ont rouvert. On ne sait pas pour combien de temps. Nous avons évoqué tous les problèmes de l'hôpital de Creil et les mobilisations. Nous avons assez peu évoqué l'hôpital de Compiègne. Nous comptons, dans cette émission, éclaircir bien des points. Daniel, tu as des questions à poser, je crois.
Oui, déjà, sur le plus près de nous, c'est Senlis, les urgences de Senlis. Donc, elles avaient fermé en août, juillet-août. Elles ont réouvert en septembre. On était contents. Et apparemment, ça serait une situation provisoire. Qu'est-ce qu'il en est pour l'avenir, les urgences de l'hôpital de Senlis?
L'avenir est bien sombre.
Voilà.
Donc, en effet, elles ont fermé en août, faute de personnel, essentiellement médical. Mais aujourd'hui, on a aussi le problème du paramédical. Donc les choses se sont plutôt aggravées. Elles ont réouvert un peu au forceps, hein, parce qu'elles ont réouvert dans des conditions dégradées, avec la plupart du temps un seul médecin en 24 heures sur ces urgences, ce qui n'est pas très sécurisant. Et il s'avère qu'au regard des effectifs paramédicaux, mais surtout médicaux encore aujourd'hui, il n'est plus possible, avec l'effectif de personnel du GHPSO, de maintenir deux sites d'urgence. Donc, il a été décidé, c'est vendredi, donc ça nous a été annoncé à l'équipe médicale avant-hier, il a été décidé de fermer les urgences de Senlis, voilà, et ce, pour un temps indéterminé.
Voilà.
C'est-à-dire que personne ne souhaite une fermeture définitive, je pense que même ceux qui ont pris cette décision ne le souhaitent pas, mais de façon très concrète. Il n'y a pour l'instant pas les moyens de rouvrir ce site. Et cette situation, on reviendra après sur les raisons de cette situation et le contexte politique de santé, de la politique de santé qui provoque tout ça. Mais en tout cas, on n'est pas prêt de les voir rouvrir, parce qu'il manque là, pas un poste, deux postes, mais ce serait plutôt 10 à 15 postes.
Oui. Ouais, donc, ce qui revient à dire que nous, Crépinois, les urgences, c'est Compiègne ou Creil.
Bah oui, de fait.
Voilà.
Oui.
Alors, juste une question. Dans le personnel qui manque, est-ce qu'on connaît les raisons de ce manque? Est-ce des départs volontaires? Est-ce des emplois en moins, etc.?
Alors, il y a différentes périodes, en fait. Il y a eu toute une période, mais qui est désormais passée, où la volonté politique des ministères de la Santé qui se sont succédés, parce que, bon, depuis Nicolas Sarkozy, en gros, on a la même politique, hein, faut quand même être très clair. Les alternances n'ont rien changé à la politique de santé, et ça s'est aggravé encore avec ce gouvernement, avec Buzyn, avec Véran, enfin bon, voilà, on n'a pas récupéré la crème. Mais... sur toute la première période, il y a une volonté de réduire l'offre de soins du public, très claire, avec des fermetures de lits, de services et la diminution du personnel, le non-remplacement. C'était ça la volonté de ne pas remplacer. À l'époque, on avait dit un fonctionnaire sur deux. On n'est quand même pas arrivé là parce que le principe de réalité a quand même rattrapé. Mais il y a eu toute cette logique de réduire la voilure et de prendre ce qu'on a appelé le virage ambulatoire, qui n'est plus rien d'autre qu'un mirage ambulatoire, en fait. Hein, parce que autant il y a des solutions ambulatoires pour certaines pathologies, autant des patients polypathologiques âgés qui se présentent aux urgences, on ne va pas leur faire de l'ambulatoire. Il faut des moyens d'hébergement. Donc on a était dans ce sens de diminution de notre capacité de prise en charge, on le ressent aujourd'hui. Donc ça, c'est la première période, et ça s'est accompagné, mais là, depuis plus de 30 ans, depuis 40 ans, d'une insuffisance de formation des professionnels de santé. Le premier tract que j'ai distribué à la fac pour dire qu'on n'aurait pas assez de médecins, j'étais en première année de médecine. Je donne l'échelle, j'ai 53 ans, ça fait un petit moment que c'est fini. On savait déjà que le problème se posait. Et pourtant, malgré des rencontres, j'étais déjà un syndicaliste, malgré des rencontres au ministère, on s'est toujours trouvé face à une fin de non-recevoir. Et bon, on m'avait même sorti, c'était un technocrate, un gentil technocrate du ministère de la Santé qui m'avait sorti, mais moins de médecins, moins de soins, moins de soins, moins de dépenses, notre souci est financier. Ah oui, mais comment soignera les gens? Ça, on verra. Voilà. On voyait bien que le problème s'avançait. Donc ça, c'est toute la première période. La deuxième période plus récente, c'est que cette politique a provoqué des conditions de travail insupportables dans l'hôpital public, des conditions de rémunération inadmissibles, puisque les salaires des aides-soignants, des infirmiers, des brancardiers sont misérables. Et aujourd'hui, alors qu'on a déjà bien rincé nos hôpitaux, on assiste à une deuxième vague de catastrophes, mais qui là est plus de l'ordre du départ des soignants. Parce que la vie qu'ils ont à l'hôpital public leur devient insupportable. Il faut se rappeler qu'avant le Covid, il y avait déjà deux ans de mouvement dans les hôpitaux, qui avait commencé par les urgences qui s'étaient élargies aux hôpitaux, pour dénoncer cette situation. Le Covid est arrivé, cette bataille s'est mise un peu entre parenthèses, parce que tout le monde s'est remobilisé pour faire face à cette pandémie. Dans le même temps, on nous a dit « plus rien ne sera comme avant, ce sera le monde d'après, vous allez avoir un beau Ségur ». À la sortie, rien ne s'est passé, la politique est la même. Et c'est désespérant pour toute une partie des soignants. Donc une partie considère que ça ne changera pas et qu'il faut se sauver individuellement.
Alors moi, j'ai une question concernant la médecine, parce que nos auditeurs et auditrices, ils veulent savoir comment être soignés. Quand on parle de l'ambulatoire, ça correspond à quoi exactement comme type de soins ?
Il y en a plusieurs types, mais... Le principe de l'ambulatoire, et c'est un progrès, faut bien mesurer que quand on peut le faire, c'est un progrès, mais il ne faut pas l'appliquer à n'importe quoi. C'est dire, par exemple, vous avez une hernie inguinale, voilà, on va prendre une hernie inguinale, chose assez banale, pas étranglée, un truc qui gêne. Vous venez le matin à l'hôpital, vous avez rencontré avant l'anesthésiste, le chirurgien. On vous hospitalise le matin, on vous prépare, on vous passe au bloc opératoire. Maintenant, on peut le faire avec des techniques chirurgicales qui sont moins agressives que par le passé. Voilà, ça s'appelle de la celluloscopie. Ça évite d'ouvrir les gens. Enfin, si je puis dire, ce n'est pas très élégant quand je le dis comme ça. mais en tout cas, la cicatrisation est plus rapide. Les douleurs sont nettement inférieures à ce qu'on avait avant. Et ce sont des gens, s'ils n'ont pas de problème majeur, mais ça, c'est important de le dire, s'ils n'ont pas de problème majeur, qui peuvent retourner à domicile dans la soirée et être revus en consultation de suivi assez régulièrement. Donc ça, c'est bien et pour le patient, parce que rester hospitalisé, ça ne fait jamais plaisir à personne, et pour la structure, parce que, en effet, ça évite de mettre en place un hébergement lourd, coûteux. S'il n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Le problème, c'est qu'on a essayé de multiplier ça à des choses qui ne dépendent pas de l'ambulatoire, et puis à des gens qui ont des problèmes de santé qui nécessitent une surveillance hospitalière. Donc là, faut vraiment bien fixer les indications.
J'avais entendu un urgentiste qui disait, pour l'ambulatoire, il faut être en bonne santé. Effectivement, c'est ça, pour résumer.
Bien sûr.
Voilà. Oui, voilà, moi, j'ai juste une question très précise. Ma mère qui a dû suter une chute. D'abord, elle a consulté un médecin, parce qu'apparemment, c'était pas trop radio, etc., pas de fracture. Et la douleur augmentant, le lendemain, on est allé aux urgences. Et donc, aux urgences, re-radio. Pas de fracture, elle était avec une douleur intense, mais voilà, on m'a dit, écoutez, nous, il n'y a pas de fracture, on peut pas la garder, retour à la maison avec un traitement anti-inflammatoire à bonne dose. Et il se trouve que la douleur a augmenté, effectivement, il n'y avait pas de fracture du bassin, là, heureusement, le médecin traitant de notre centre de santé qui a ouvert s'est déplacé à domicile. Et il a fait un examen clinique où il m'a dit, c'est probablement tassement de vertèbre ou plus. Et donc, elle était dans l'incapacité au fur et à mesure de bouger. Elle était complètement bloquée par la douleur. Alors, voilà, c'est là où on se pose des questions. Est-ce que, en d'autres temps, s'il y avait eu des lits, est-ce qu'on l'aurait gardé pour observation, comme on disait ?
Bien évidemment qu'on l'aurait gardé. C'est ce qu'on faisait il y a encore une vingtaine d'années. On est arrivé à une situation où finalement la tension en termes de place libre fait que notre raisonnement médical est altéré. et qu'on va raisonner sur une pathologie et plus sur un individu. Or, la médecine, ça concerne des gens. Il n'y a pas que l'organe, il y a les gens autour. Et évidemment, s'ils ont des problèmes d'autonomie, s'ils ont des problèmes d'impossibilité de gestion à la maison, nous aussi, on a ce rôle. On devrait avoir ce rôle. On n'est pas que des soignants d'organes, on est des soignants de personnes. Mais la situation qui nous est faite fait que la dérive se fait, parce que on prend finalement ce qu'il y a de plus grave, où il faut de la technique. Et voilà, on est arrivé à une médecine très technique, parce que il n'y a pas de place pour le reste. Donc c'est vrai que c'est une dérive inquiétante, mais cette logique, finalement, ce n'est rien d'autre qu'une logique de privatisation progressive. Vous savez, je disais tout à l'heure, on a réduit l'offre de soins de l'hôpital public. On ne l'a pas réduit pour le réduire. On l'a réduit parce que l'hôpital public français était un très bel outil, mais quasiment un monopole. Nous prenions, entre guillemets, le marché. C'est-à-dire que pourquoi les gens seraient allés dans le privé avec un hôpital public qui soignait bien, qui était quasiment gratuit, qui répondait à tous les besoins ? Il fallait libérer le marché. À chaque fois qu'on ferme un service public, on libère le marché pour le privé. Et c'est cette logique de privatisation à deux bandes là, qui se met en place depuis 40 ans.
D'accord. Alors, je crois que Christian a aussi des questions à poser.
Eh bien oui, toujours dans le même registre, j'ai vu un article du Parisien titré « Un fiasco, deux points, le transfert de la maternité de Creil vers Senlis a fait fuir une partie des patientes ». Que faut-il penser de cet article ?
Il faut penser que c'est un fiasco, il a raison cet article, là pour le coup. En fait, ça a été toute cette bataille à laquelle j'ai participé, à laquelle nous sommes nombreux à avoir participé pour maintenir une maternité. Ouais. Maternité de niveau 3, je le rappelle, c'était le plus haut niveau de prise en charge, le plus haut niveau de prise en charge des grossesses compliquées, c'est-à-dire que nous avions là un outil de très grande qualité. Et donc, nous avons fermé cette maternité de niveau 3 sur Creil. C'est le seul exemple en France d'une fermeture de maternité de niveau 3. Et elle a été transférée. Alors, le mot, les éléments de langage, c'est on ne l'a pas fermée, on l'a transférée à Senlis. Non, on a fermé le site de Creil et en effet, tous les accouchements se sont faits à Senlis. On a donné un niveau 3 à Senlis, mais avec une difficulté réelle, c'est qu'il n'y a pas de réanimation adulte sur le site de Senlis, donc on devait quand même transférer sur Creil, donc c'est un niveau 3 relatif. Et puis, ce qu'on constate, c'est que ça a posé des difficultés. Alors l'article, je l'ai lu, disait que finalement, malgré nos inquiétudes, les femmes du bassin creillois étaient allées à Senlis. Alors oui, évidemment, les gens se sont débrouillés avec des situations complexes, mais c'est aussi beaucoup d'interventions SMUR, d'équipes médicalisées pour des accouchements inopinés sur le bassin creillois. C'est aussi beaucoup de mobilisation de moyens de transport pour ces femmes qui nous auraient servi par ailleurs. Donc il faut un petit peu tout regarder. Et puis l'autre effet, c'est que finalement, et l'article a raison, les femmes qui ne sont plus venues, et il y a une perte d'un millier à peu près d'accouchements quand on fait le cumul des deux maternités, il y a un millier d'accouchements en moins sur le site regroupé. Les femmes qui sont parties, ce sont plutôt les femmes du bassin de Senlis, qui étaient plus aisées, qui avaient une demande d'hôtellerie différente, puisque auparavant, la maternité de Senlis avait des lits simples, des chambres seules, ce qui est plutôt moderne. C'est quand même mieux d'être dans une chambre seule pour accueillir son enfant, sa famille. Ça peut paraître logique. Mais ce regroupement, cette fermeture et ce regroupement ont fait que pour faire de la place, on a divisé les chambres, on a fait des chambres à deux lits, ce qui n'était pas ce que recherchait une partie des habitants de ce bassin de vie qui se sont plutôt orientés sur le privé et en grande partie la clinique Saint-Côme.
Voilà. Dis donc, on n'avait pas eu une information. La clinique, elle n'avait pas fermé la maternité.
La maternité de Saint-Côme devait fermer le week-end à cause d'un manque de personnel. Et la maternité de Senlis était en niveau 1. Au départ, je crois.
Non, il y a eu trois dégradés. Enfin, ça a été un débat un peu compliqué.
Un petit peu ambigu, d'accord. Ouais.
Bon, donc là, on a bien la démonstration de ce qui était dit tout à l'heure.
On va vers le privé.
Tu as d'autres questions, Christian ?
J'ai encore un autre titre, là, qui me semble aussi très intéressant, et j'aimerais avoir l'avis du docteur là-dessus. Je lis « Une lente descente aux enfers, 10 ans après le lourd bilan de la fusion des deux hôpitaux de Creil et de Senlis ».
J'ai été interviewé dans cet article, donc en l'occurrence, ça va pas être trop dur. J'ai déjà eu les questions par le journaliste du Parisien. Il m'a appelé journaliste d'ailleurs parce que j'étais parmi les opposants, on était là aussi très nombreux, à cette fusion. Pas qu'on s'opposait d'ailleurs à la coopération entre les hôpitaux de Creil et Senlis, ça était indispensable.
Ce qui n'est pas la même chose.
Ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui nous avait heurté, la raison pour laquelle nous étions opposés à cette fusion, il faut se rappeler du contexte, c'était une fusion dans le cadre de la loi Bachelot. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait une volonté, alors il y avait plein de choses dans cette loi, c'est une loi catastrophe, hein, la loi Bachelot, puisqu'elle a retiré finalement la gestion des hôpitaux aux soignants, qui co-géraient avec les administrations. C'était le discours de Strasbourg, de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui avait dit qu'il faut un seul patron à l'hôpital, le directeur, et c'est appliqué depuis. Ça a retiré aussi le droit d'intervention des élus sur les hôpitaux, des élus locaux, ouais. Puisqu'ils étaient dans un conseil d'administration. Ouais. Ça s'est transformé en conseil de surveillance, qui est rien d'autre qu'une chambre d'enregistrement. Voilà, c'est, enfin, un des élus me disait qu'il avait le rôle de la reine d'Angleterre. Hein. Il saluait les cortèges, mais il pouvait surtout pas décider de comment ils avançaient. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé avec cette loi Bachelot. Et dans le même temps, elle proposait la fusion d'hôpitaux proches. Et en effet, nous avons une proximité avec Senlis, Creil-Senlis, 17 km, mais des bassins de vie très différents. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les 17 km qui séparent les hôpitaux, mais de chaque côté, vers le sud de l'Oise pour ce qui concerne Senlis et vers le nord de l'Oise pour ce qui concerne Creil, ça fait beaucoup plus long. Et on rajoute encore de la distance.
On peut doubler, quoi.
Bah oui, si vous voulez, si je ne suis qu'à Creil et que je ferme Senlis, pour aller chercher quelqu'un dans le sud de l'Oise, c'est plus de 45 minutes. Mmh. Donc on est plus dans les mêmes problématiques d'urgence. C'est pour ça qu'il va falloir aussi raisonner sur comment on gère les premiers secours avec les SMUR. Parce que c'est encore une situation qui va devoir nous faire discuter avec les SMUR du Val d'Oise, de Meaux, parce qu'on ne peut pas laisser cette partie de population complètement dans une zone grise, hors de tout recours de premiers secours médicaux. Et Crépy, vous avez une situation bien connue à ce sujet, puisque vous êtes déjà plus ou moins dans une zone grise. Hein.
Oui.
Donc, la fusion Bachelot, pour revenir à mon propos, c'était une fusion qui faisait pas un hôpital plus un hôpital égale 2. Voilà, ça faisait un hôpital plus un hôpital égale 1,5. C'était une réduction de moyens, une logique. Alors, ils appellent ça de rationalisation, mais c'était de restriction des moyens de l'hôpital public. Et nous avions dit que le plus gros mangerait le plus petit, ce qui s'est produit.
Alors justement, à propos d'hôpitaux, l'un qui mange, l'un qui est réduit, etc., on entend moins parler de problèmes à l'hôpital de Compiègne, encore que on ait entendu que là aussi il y avait des départs, mais il me semblait avoir lu quelque part que pour le département de l'Oise, ceux qui pilotaient là-haut voulaient réduire à 2 hôpitaux la présence dans le département. Qu'est-ce qu'il en est, Beauvais?
C'est un vieux débat, mais qui va. Je ne vais avoir que des suppositions. Parce que autant ce que je dis avant, je le sais, autant là, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je vais revenir à cette loi Bachelot. Hein, parce que dans la loi Bachelot, il y avait un truc qui disait il faut un hôpital par département. Voilà, un hôpital par département. Donc on était sur des logiques de restriction et de concentration énormes. Depuis, il y a eu de l'eau mise dans le vin parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Après, la logique aujourd'hui, puisqu'il y a une autre loi qui s'appelle la loi Touraine, c'est le regroupement d'hôpitaux au sein de GHT, de groupements hospitaliers de territoire. Et donc, ça ne veut pas dire que les hôpitaux ferment, mais qui sont pilotés par un hôpital support. Mais je vous renvoie à ce que j'ai dit sur la loi Bachelot avec le plus gros mange le plus petit. On sait très bien qu'à un moment donné, on rapatrie, quand on est en difficulté sur les moyens, on rapatrie les moyens sur le plus gros site. Je vais modérer, et puis après j'arrête mon propos sur le plus gros mange le plus petit. On a surtout tué le plus petit. Creil n'a pas mangé grand-chose, hein, parce que Creil a aussi subi une cure d'austérité assez forte.
D'accord. Eh ben, écoutez, je crois que là, on a fait malheureusement un tour d'horizon assez sombre. Écoutez, docteur Penn, nous comptons vous réinviter parce que nous aimerions connaître les solutions immédiates que vous proposez pour l'hôpital. Et nous avons d'autres questions à vous poser. Donc, chers auditrices, auditeurs de RVM, c'était un premier temps avec le docteur Loïc Penn. Nous allons, comme d'habitude, vous pourrez écouter notre émission le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h, et bien entendu ensuite en podcast, c'était sur les hôpitaux de l'Oise. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.